Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Au fil des pages où nous évoquons avec Monsieur André Damien les avocats, le métier d'avocat et la profession. Aujourd'hui, nous avons, dans une émission précédente, évoqué les avocats du temps passé. Nous allons maintenant évoquer ceux d'aujourd'hui. Et là, je crois que, Monsieur Damien, vous avez beaucoup de choses à dire. D'abord, quand avez-vous publié cet ouvrage « Être avocat aujourd'hui » Est-ce que c'est un aujourd'hui 2006 ou un aujourd'hui un peu passé?
C'est un aujourd'hui un peu passé, car en réalité, j'enseignais la déontologie à la faculté de Paris-10 Nanterre, à l'Institut d'études judiciaires, et j'enseignais au centre de formation des avocats de Versailles. Et à force d'enseigner et de répéter les mêmes cours et de les écrire, j'ai fini par sortir un livre qui a aujourd'hui 30 ans.
Nous ne parlons pas d'un livre d'actualité,
non.
Alors.
Et alors, ce qui est très amusant, c'est que je l'ai relu à l'occasion de cette interview que vous me donnez, et j'ai découvert qu'il était, j'emploie le mot dans son sens, prophétique, en ce sens que je décris les drames d'il y a 30 ans, qui sont exactement les drames d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'en réalité, ce qui est grave, c'est pas que j'étais un prophète, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est que rien n'a changé depuis 30 ans et que nous sommes à la même situation. D'où la catastrophe judiciaire qui vient de s'abattre sur la justice et sur la France actuellement était prévisible il y a 30 ans, puisque je décris les mécanismes grippés dans un livre il y a 30 ans.
Alors ce livre publié il y a 30 ans, qui n'est, comme je le disais, pas un livre d'actualité, mais un sujet d'actualité,
oui.
Sinon enfin, on ne peut plus d'actualité. Être avocat aujourd'hui, par André Damien, publié aux éditions Apil à Versailles. J'en donnerai l'adresse tout à l'heure. Être avocat il y a 30 ans et aujourd'hui, ce n'est pas pareil.
Sur le plan de la défense, c'est pareil, il y a des difficultés que l'on rencontre. Sur le plan de la profession, elle a considérablement évolué, l'avocat devenant un avocat d'affaires. Il n'est plus un avocat de famille, il est un avocat d'affaires, il fait des contrats, il passe des contrats, il donne des consultations, il prévoit des modes de fusion de sociétés, etc. Il y a donc une évolution considérable. Mais cette évolution considérable ne concerne pas tout le barreau, mais simplement ceux qui se sont consacrés à ce type d'avocat d'affaires, dans lequel sont entrés tous les anciens conseils juridiques. C'est pas du tout un mot infamant dans ma bouche. C'était leur situation d'autrefois qui ont été intégrés à la profession d'avocat par la réforme de 72 et qui ont prospéré dans un sens d'affaires, mais d'affaires nécessaires aujourd'hui dans notre époque, notamment l'international, puisque nous ne sommes plus avocats nationaux. En revanche, est resté intact les avocats qui défendent des causes privées, des causes particulières, les querelles de voisinage, les divorces, ou bien le pénal, petit pénal, celui de la correctionnelle, et grand pénal d'assises, qui n'a pas changé, pas en passant par le juge d'instruction et l'avocat général, qui n'ont pas changé non plus. Le Tchernobyl judiciaire qui vient de s'abattre sur la France le montre bien.
Alors, est-ce que c'est justement cette espèce de dichotomie que vous soulignez qui crée la crise de la justice?
Oui, je pense que c'est, n'est-ce pas, une distanciation par rapport au réel et par rapport aux aspirations actuelles. Qui a un droit des affaires, c'est tout à fait légitime et normal. Et j'ai demandé aux bâtonniers de Paris, dans le cadre de mon année de présidence de l'Académie des sciences morales, de venir nous expliquer où va le barreau actuel. Mais ça, c'est tout à fait une évolution parfaitement normale. Ce qui est anormal, c'est que le pénal n'est pratiquement pas bougé. Et qu'on soit resté empêtré, englué dans un juge d'instruction en procédure purement accusatoire, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond aujourd'hui et qui nous amène les difficultés qu'on connaît maintenant et que la presse, dont la presse se fait écho avec délices.
Déjà, on peut dire effectivement que les jurés ne sont plus les mêmes qu'autrefois, parce qu'autrefois on avait des jurés incompétents, j'allais dire, c'est-à-dire un peu n'importe qui. Maintenant, on a des jurés un peu plus compétents. Alors, qu'est-ce qui a changé de ce point de vue?
Il y a deux choses qui ont changé. D'abord, les jurés délibéraient seuls. Et ils se prononçaient sur la culpabilité. C'était des jurés issus de la France moyenne, qui était donc une France rurale. C'était donc des jurés pleins de bon sens, mais aux connaissances limitées. On leur demandait de savoir lire et écrire. Aujourd'hui, les jurés ont évolué comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont devenus plus savants. Ils regardent la télévision, ils apprennent des choses, ou après ils croient comprendre. Enfin, ils ont fait une évolution. Et d'autre part, ces jurés délibèrent maintenant avec la cour, ce qui leur donne une grande maîtrise de la peine. Alors qu'autrefois, c'était l'acquittement ou la condamnation, la peine leur échappait. C'est pourquoi il y avait des acquittements qu'on estimait scandaleux, car quand les juges avaient un doute sur l'indulgence de la sentence qui allait être donnée par les trois juges, qui jugeaient, en fait, qui donnaient 5 ans, 6 ans de prison, 10 ans de prison, ils préféraient acquitter de façon à terminer l'affaire. Aujourd'hui, ils sont associés aux délibérés des magistrats, ils sont un nombre important, c'est vrai, mais les magistrats gardent quand même leur importance par leur science et par l'équilibre qu'ils savent donner. Il y a de grands présidents d'assises dont les jurés font l'expérience et ils travaillent en collaboration. Alors il y a une deuxième chose, c'est qu'autrefois les jurés étaient choisis, en gros, dans la liste locale par le maire, qui choisissait ce qu'on appelle le bon juré, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un peu de disponibilité, un peu de culture, de bonne volonté, etc. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort pur et simple. Donc on peut tomber sur l'idiot du village sans aucune difficulté, enfin, il n'y en a pas beaucoup idiot du village, il n'y a plus de village. Mais enfin, on peut tomber sur des gens complètement en dehors du coup. Et vous le voyez bien dans un film, c'est ancien déjà, c'est Justice est faite, où l'on voit qu'un des jurés est préoccupé par le sort de ses cochons ou de ses truies qui vont mettre bas, beaucoup plus que par le procès auquel il vient d'assister.
Tout de même, il y a des gens qui sont incapables. Dont on ne déclare pas l'incapacité.
Non, on n'a
enfin,
pas
il y a
de
au moins tous ceux qui n'ont pas de droit civique, ceux-là on les élimine, mais les grands malades par exemple.
Ben on ne le sait pas, on ne le sait pas. On peut les récuser, mais pour le récuser, il faut l'avoir vu un peu au travail. Alors la défense ou l'avocat général peut récuser des jurés, mais il faut savoir à qui on a affaire. Alors, l'idiot se remarque assez rapidement, mais ne se remarque pas la première fois. Il faut qu'on ait délibéré avec pour savoir qu'il est complètement incapable de porter un jugement sain et solide sur une question difficile.
Alors, André Damien, il y a tout de même dans la profession d'avocat des choses qui sont identiques entre le 21e siècle, le 20e siècle et le 19e. Il y a toujours la plaidoirie, on plaide toujours, c'est toujours le rôle de l'avocat.
Alors, on plaide moins parce que les tribunaux n'ont plus le temps d'entendre et que donc on plaide beaucoup plus ramassé. On plaide aujourd'hui ce qu'on appelle par observation. Autrefois, on plaidait 2-3 heures. Et tout le monde trouvait ça absolument normal. Un peu à la manière dont nous regardons une émission de télévision d'une heure, sans fatigue apparente, alors qu'au bout de 10 minutes, on a compris de quoi il s'agissait. Et bien là, les avocats plaidaient 2-3 heures. Et les juges les écoutaient parce qu'ils étaient formés à cette
civilisation
orale. Oui, ils aimaient ça. Les sermons en chair étaient de la même durée. Et on prêchait rarement moins d'une heure, alors qu'aujourd'hui, quand on a fait 10 minutes, on en parle. Et on dit, monsieur le curé était bien long ce matin. Le père, pardon. Dont dit plus M. le curé, le père a été bien long ce matin. Alors, il y a donc eu l'observation, il y a eu ensuite le passage du dossier. C'est-à-dire que les avocats ont pris l'habitude, quand dans une bonne plaidoirie, de résumer, de rassembler leurs arguments dans une espèce de javelot percutant qu'on envoie sur le juge et qui doit le convaincre en quelques instants. Mais pour autant, il faut lui donner des pièces. Il faut lui donner des pièces cotées, c'est-à-dire qu'il va retrouver. On a dit ça, il faut qu'on sache qu'à la cote 10, on va trouver la pièce. Donc, à partir du moment où on a préparé des dossiers, peut-être pas dire un peu scientifiques, qui n'étaient pas la manière d'origine, eh bien, la plaidoirie n'avait plus besoin d'être aussi longue. Et certains avocats se contentent aujourd'hui de passer le dossier au tribunal en disant « il regardera, ils le regarderont » et on les dispense de l'audition répétitive et un peu ennuyeuse d'une plaidoirie qui est souvent sous le même type. Pour qu'un plaidoyer puisse retenir l'attention d'un magistrat, il faut surprendre. De la même manière que pour prêcher, si vous voulez prêcher quelque chose, il faut donner un coup de poing dans la poitrine de vos auditeurs qui les réveille ou les éveille et les surprend. Ils écoutent la suite en disant « qu'est-ce qui va se passer ?» Et il en est le même pour l'avocat. Si vous commencez à être long, lent dans l'exposition des faits, ben les gens s'endorment.
Est-ce que cela participe aussi de cette crise de la justice dont vous nous parliez au début de cette émission ?
Un peu, parce que dans la mesure où les magistrats sont devenus très pressés, il faut aller à l'essentiel et ils ont une tendance à faire des choses un peu répétitives sans porter attention à chaque dossier. Mais ce qui est grave en matière civile est bien plus en matière pénale, puisqu'en matière pénale, on a quelques instants pour saisir une affaire, la croquer comme on croque une caricature et la présenter au magistrat, on n'a plus le long développement. Et d'autre part, il faut se méfier de l'instruction, car l'instruction telle qu'elle est pratiquée dans certains endroits, c'est le cas du Tchernobyl de Saint-Omer, est quelque chose qui est un peu paradoxal et anormal. Mais je ne fais pas peser sur le petit juge d'Outreau, M. Fabrice Burgot, le poids de tous les péchés dont il serait le bouc émissaire, parce qu'il n'a fait que suivre un système qu'on lui a appris à l'école et qu'il a appliqué. L'affaire était exceptionnelle et les principes qu'on lui avait donnés n'étaient pas proportionnés à l'affaire, d'où le Tchernobyl.
C'est ce que vous appelez en effet le Tchernobyl. Qu'est-ce qui a changé encore dans la profession d'avocat? Alors, puisque là on parle spécifiquement dans votre ouvrage « Être avocat aujourd'hui », y a-t-il eu d'autres changements tout à fait caractéristiques par rapport au 19e siècle?
Alors le premier, à mon avis, sont les honoraires. L'honoraire, la formule normale, c'est les honoraires, mais on emploie aussi la formule au singulier, qui n'est pas dans le littré ni dans le dictionnaire de l'Académie. Les honoraires étaient autrefois demandés avec âpreté, certes, mais avec une certaine modération. Certes, les grandes vedettes prenaient des honoraires plus que confortables, mais l'ensemble des avocats accepter des affaires à des prix moyens. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats ont inventé une nouvelle méthode qui est le temps passé. Et avec le temps passé, chaque fois que vous réfléchissez à l'affaire, vous piquez sur l'ordinateur et vous rajoutez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça vous fait du 500 € en fin de compte parce que vous avez pensé à l'affaire. Alors si vous en avez rêvé, je n'ose plus imaginer quel est le montant des honoraires.
Donc ça fait aussi une justice à deux vitesses, oui, qui serait plus facile pour les riches que pour les pauvres, comme on le dirait pour la médecine, par exemple.
Alors il y a une autre institution qui a pris une grosse évolution, c'est l'aide judiciaire. Puisque pour les pauvres, entre guillemets, car les pauvres sont quand même un peu riches, il y a aujourd'hui des avocats désignés par le bâtonnier et qui travaillent non plus gratuitement parce qu'ils sont payés par l'État, d'une manière pas très intéressante, pas très rentable et relativement correcte, qui leur permet d'avoir un avocat désigné pour eux et qui va s'occuper. Or, au 19e siècle, l'aide judiciaire était la charité du barreau, charité qu'il assumait avec beaucoup de gloire en disant « nous sommes généreux », mais qui, devant l'abondance de l'aide judiciaire, avait fini par faire baisser les bras à beaucoup d'avocats.
Et donc maintenant, l'aide judiciaire, vous estimez qu'elle fonctionne?
Elle fonctionne à peu près convenablement. Les avocats plaident très consciencieusement les affaires d'aide judiciaire comme ils plaident les affaires dites payantes et ils sont un peu rémunérés de façon à ce que ça ne soit pas trop onéreux pour la rentabilité de leur cabinet. Il y a des cabinets qui vivent pratiquement avec l'aide judiciaire et la commission d'office et qui arrivent à vivre convenablement en se consacrant à cette médecine gratuite, si je puis dire, qui finit par être rentable, alors que autrefois c'était simplement la charité, par là même, l'avocat qui aurait plaidé uniquement de l'assistance judiciaire, puis c'était le mot qu'on employait à l'époque, serait mort de faim depuis longtemps.
Monsieur Damien, est-ce que l'ordre des avocats est organisé différemment maintenant par rapport à l'Ancien Régime, sûrement, et au 19e siècle?
Alors, sous l'Ancien Régime, il était puissant, parce que le Parlement avait l'habitude de ne pas réformer les décisions du Conseil de l'Ordre, qui étaient en partie élus. Sous l'Empire, en 1810, Napoléon, a reconstitué le barreau et son Conseil de l'Ordre, mais dont la plupart des membres étaient nommés par les magistrats, et il y avait très peu de membres élus. Il y avait le secrétaire de l'ordre. Et le barreau de Paris, par son importance, était puissant, puisque lui s'élisait lui-même. Aujourd'hui, tous les barreaux sont devenus importants, puisqu'il y a une augmentation de concentration judiciaire et du nombre d'avocats. Et d'autre part, et c'est leur pouvoir, ont cru. Mais en même temps, leurs charges ont cru. Ce qui fait qu'actuellement, les conseils de l'ordre sont un peu débordés par le nombre de plaintes, par la nécessité de les instruire. On a donc fait des sections. Si le conseil de l'ordre consacrait à toutes les plaintes une instance disciplinaire, et surtout qu'on l'a compliqué en disant que le bâtonnier ne peut plus en faire partie puisque c'est lui qui renvoie devant la juridiction disciplinaire, eh bien, le conseil de l'ordre ne ferait plus que ça. Il n'y aurait plus de temps pour faire quoi que ce soit. Ce qui fait qu'actuellement, le barreau dans son organisation est un peu en crise par l'augmentation des matières à traiter par un nombre de personnes important. D'autre part, si vous avez un conseil de l'ordre qui devient une véritable petite assemblée, ce n'est plus ce travail de pair familial et convenable qui existe, ça devient une petite assemblée qu'on est obligé de réunir par section pour que chacun ait le temps de parler, de s'exprimer. Alors je crois que là, il y a une crise certaine dont il faut tenir compte.
Donc la crise de la justice, en fait, elle est faite de petites crises ou de grandes crises, mais dans différents domaines. Il n'y a pas une crise, mais finalement, ça finit par faire une grande crise.
Et c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'à l'occasion du Tchernobyl judiciaire, on fasse une réforme hâtive et populariste dans laquelle on changerait tout. parce qu'on ne changerait plus rien et tout resterait en l'état. Mmh. Toutes les réformes que nous avons depuis des années n'ont jamais été appliquées. On était plein de bonne volonté, on a créé des institutions nouvelles qui n'ont jamais fonctionné. On a créé le juge des libertés. Ça sert à rien, puisque dans l'affaire d'Outreau, tout le monde est resté en prison, malgré le juge des libertés, malgré la chambre d'accusation. Donc en réalité, je suis pour une réorganisation de fond, c'est-à-dire qu'on réfléchisse posément, ça durera plusieurs années.
Certainement, oui.
Mais il faut passer un temps à regarder ça. Et je suis pour le maintien du juge d'instruction, mais sous une certaine forme. Non pas le juge d'instruction banal que nous avons connu, auquel l'avocat a eu accès depuis 1897, qui a été une date importante, puisque l'avocat est venu pour la première fois dans le cabinet du juge, non pas pour dicter ses réponses au client, mais pour écouter ce qu'il disait et veiller à ce que le juge dicte bien ce qui a été dit et non pas ce qu'il a cru comprendre devant un inculpé effrayé qui n'ose pas faire modifier le procès verbal et dont on n'a pas compris la pensée. La solution est évidente, c'est la modification de la juridiction d'instruction et le projet est tout récent, c'est le projet Mater de 1938. Projet que le procureur général Mater a élaboré, qui est un projet extrêmement séduisant, qui a été commenté par Henri Donnedieu de Vabre, le grand juriste français, qui est professeur de droit pénal français, qui a été juré au tribunal de Nuremberg, une grande figure de l'enseignement du droit, qui est d'ailleurs
le grand-père de notre ministre
Donnedieu de Vabre, notre excellent ministre de la Culture et de la Communication. Et Henri Donnedieu de Vabre a pratiquement exposé, en l'approuvant, le système Mater, dans lequel vous avez rassemblé, dans des juridictions plus importantes, au chef-lieu, tous les juges d'instruction du coin, qui sont non pas des autonomes, comme l'était malheureusement le pauvre magistrat bouc émissaire d'Outreau, mais des juges qui sont à la disposition d'un chef, qui est le juge de l'instruction, égal en dignité, en rang et en rémunération au président, au procureur, qui fait que le tribunal a désormais trois têtes, le président, le procureur et le juge de l'instruction, qui juge les affaires d'instruction, qui regarde tous les incidents, les libertés, et qui a, alors il n'y a que 10% des affaires, puisqu'on sait que la plupart des affaires passent directement devant la juridiction correctionnelle, sans passer, ou vers le non-lieu, sans passer par le juge d'instruction. Mais il est évident qu'au lieu d'avoir cet homme seul, généralement assez jeune, ce qui n'est pas un défaut en soi, hein. Enfin, il n'a peut-être pas toujours assez d'expérience, le bon sens, il faut flairer une instruction comme un pisteur suit une piste. Et il est évident que quand on a 28 ans, on n'a pas peut-être encore l'expérience. Et il y a là quelque chose de nouveau à apprendre au juge. J'avais proposé un jour, par paradoxe, dans une réforme de l'école de la magistrature, qui est un peu la source de beaucoup de nos maux, car elle leur a donné l'illusion de sortir d'une grande école et d'un sous-savoir, alors que si un inspecteur des impôts sait tout en sortant de l'école, un juge d'instruction, un jeune magistrat, ne sait pas le visage de la réalité. J'avais proposé que l'on fît un cours de bon sens. C'est-à-dire, quand vous avez une femme qui est soupçonnée d'avoir tué son mari et son père, c'est tout à fait plausible. On a des tas de cas. Mais quand vous avez 23 personnes, comme dans l'affaire Barry Bénard, je dis, halte là, il faut peut-être un peu regarder. Et on s'est aperçu que les expertises étaient ratées, que rien n'avait fonctionné, et ça s'est terminé 5 ans après par un acquittement à Bordeaux. Alors, dans l'affaire d'Outreau, quand vous avez des pédophiles, bon, c'est fréquent, il y en a des centaines, hein. C'est regrettable. Mais enfin, il en passe tous les jours devant les tribunaux et la chronique judiciaire le dit. Mais quand vous avez dans une même tour 43 pédophiles, il faut dire, halte là, est-ce qu'on est dans le bon sens ou est-ce qu'on va pas un peu loin?
Ça pousse à la réflexion.
Ça pousse à la réflexion. Et par là même, je dis que ce cours de bon sens serait un moyen de s'arrêter sur une affaire en disant, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire que tout n'est pas dans les livres.
Tout n'est pas dans les livres. Et dans les incriminations, il y a aussi le pif qui sert à sentir une affaire.
Oui, et donc c'est là qu'en effet, ne pas être isolé et sans doute pouvoir en parler avec d'autres serait sans doute une bonne chose.
Alors, ils n'aiment pas tous en parler avec d'autres. Le juge d'Outreau, à qui on avait proposé de prendre l'affaire à deux, a refusé, ce qui était son droit. Il se sentait assez sûr de sa certitude. Il était d'ailleurs ancré dans cette idée par la presse, qui se scandalisait que certains soient encore en liberté, qui criaient à mort tranquillement dans les colonnes des journaux. Il y a eu des textes extrêmement hallucinants sur ce point, où on voit les réactions de la presse, qui réclame la peine la plus sévère. Puis brusquement, elle a des doutes, la presse, et à partir de ce moment-là, l'affaire part, desinit in pisem. C'est fini, elle éclate, et il n'y a plus de justice.
Alors, monsieur Damien, cette réforme de la justice que l'on voit absolument nécessaire en ce moment, est-ce que vous avez choisi le thème de l'année 2006, la justice, la France est-elle malade de la justice? C'est le thème de réflexion que vous avez proposé à vos confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui veut dire que toutes les communications du lundi, quand il y en a le lundi, toutes les communications vont porter sur ce thème. Est-ce que vous avez eu l'idée de participer à cette réflexion sur cette réforme? Est-ce que c'est dans cet objectif que vous avez choisi ce thème?
Pas du tout.
Pas du tout.
J'ai pas pensé, puisque la justice paraissait un vieux problème classé. On se plaignait de ses insuffisances, de sa lenteur, on se plaignait de sa cherté, et surtout, on savait qu'il y avait de temps en temps une erreur judiciaire. C'est inhérent à tout système. Alors donc, ça marchait comme ça. Donc le sujet ne me paraissait pas passionnant. Et puis, à peine avais-je choisi le sujet qui était applicable le 1er janvier d'après, qu'éclate l'affaire d'Outreau, et mon sujet devient le grand sujet de l'année.
Alors on voit bien, donc André Damien, que vous avez un côté prophétique, en tout cas pour ce qui concerne le métier d'avocat. Et je rappelle que votre ouvrage « Être avocat aujourd'hui », qui est sorti il y a une trentaine d'années, comme vous l'avez dit, est tout à fait utile pour comprendre comment la justice s'est figée et pourquoi elle a des problèmes maintenant. Cet ouvrage est paru aux éditions APIL à Versailles, APIL, dont je vais donner l'adresse, boîte postale 178, à 7804 Versailles, CEDEX. On peut se le procurer. Être avocat aujourd'hui par André Damien. André Damien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de votre patience.